Cléa Salamé, votre invité ce matin est un fils de l'ombre qui raconte son père dans L'ennemi aux éditions Grasset.
Bonjour à vous Georges Buisson.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Il fut militant à Occident, éditorialiste vedette à Minute, idéologue maurassien à la télévision, ami de Jean-Marie Le Pen puis conseiller préféré de Nicolas Sarkozy. Cet homme s'appelle Patrick Buisson et il est votre père. Vous lui consacrez sur 700 pages un portrait à la fois terrifiant et absolument fascinant. Le portrait d'un ennemi, comme le dit le titre du livre. Pourquoi Patrick Buisson, pourquoi votre père était-il votre ennemi ?
Alors, c'est pas lui qui était mon ennemi, c'est la façon dont il voit les gens, la façon dont il porte toute relation humaine et toute relation tout court sur le terrain de l'affrontement, du rapport de force. Donc l'ennemi, c'est pas lui, c'est nous. C'est la façon dont il voit la politique.
C'est ce que vous racontez, votre livre raconte à travers sa figure romanesque, il faut le dire, il faut l'avouer, il est romanesque. 50 ans de l'histoire des droites françaises et le triomphe de cette offensive culturelle et idéologique dont votre père fut l'un des principaux architectes. Cette offensive fut vécue, pensée, conçue par Patrick Buisson comme une véritable guerre contre le progressisme, guerre contre le cosmopolitisme, guerre contre la gauche. Comment avez-vous vu cela, vous, c'est-à-dire la grande revanche de Maurras, de l'Algérie française, des traditions ? Avec vos yeux d'enfant, est-ce que vous avez eu conscience de ce qui se passait autour de vous quand vous étiez enfant ?
Non, je l'ai pas vu. C'était mon milieu, c'était le milieu dans lequel il me faisait évoluer. Donc déjà, j'avais pas d'autre vision de la politique que celle qui m'imposait. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard et que j'ai découvert en écrivant ce livre. Jusqu'alors, j'avais que des anecdotes sur sa vie politique, sur sa vie personnelle. Et en écrivant le livre, j'ai découvert une chose absolument terrifiante, c'est que depuis 50 ans, il est de toutes les aventures d'extrême droite. Il n'a jamais quitté le tableau. Alors généralement, c'était en arrière-plan, et puis jusqu'à occuper aujourd'hui une place centrale.
Jamais aux premières loges. C'est ça son mantra. Toujours jamais en première ligne.
En première ligne, toujours aux premières loges, la règle de l'influence. Aujourd'hui, il est en première ligne, mais ça n'a pas été le cas pendant des années. Et ça, les gens l'ont pas vu. On n'avait que des éléments épars de son CV. Directeur de Minute, ami Jean-Marie Le Pen... éditorialiste à SCI, conseiller
Nicolas. À Occident,
dans ça, on n'a jamais su ça. Il l'a toujours caché.
C'est ce que vous révélez dans
votre livre.
Vous dites que l'extrême droite fut presque toute sa vie.
C'est toute sa vie. C'est toute sa vie politique, depuis l'âge de 15 ans, quand il a commencé à militer. Et il a été de toutes les aventures d'extrême droite. C'est-à-dire aussi bien la campagne Tixi en 65, mai 68, la naissance du Front National, l'éclosion de Jean-Marie Le Pen, le souverainisme. C'est quand même lui qui l'a lancé avec Philippe de Villiers après le traité de Maastricht et jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy.
Ouais.
Et encore aujourd'hui.
Il rêvait de réconcilier les droites, Jean-Marie Le Pen et Nicolas Sarkozy. Ça ne s'est pas fait. Vous dites, vous racontez que c'est Marine Le Pen, c'est sa fille qui va s'opposer à ce que Jean-Marie Le Pen apporte son soutien à Nicolas Sarkozy.
C'est sa fille effectivement qui a empêché que Jean-Marie Le Pen appelle à voter pour Nicolas Sarkozy. En 2007, il y a eu un déjeuner. Dans l'entre-deux-tours, à Montretout, entre les trois protagonistes.
Ouais.
Et il a refusé d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy.
Votre père n'est pas resté un idéologue marginal de l'extrême droite. Il fut, vous le dites, au cœur du pouvoir, au cœur du pouvoir Sarkozy notamment. Vous racontez comment pendant 5 ans, il fut aux commandes de la France, Patrick Buisson, via l'influence qu'il exerçait sur le président. Comment expliquez-vous que Nicolas Sarkozy était aussi fortement fasciné et même sous l'emprise de Patrick Buisson ?
Il a toujours occupé la position haute dans sa vie personnelle comme dans sa vie politique, et le stratège est celui qui détient les clés de la réussite. Donc chez un politique, la part psychologique est essentielle, surtout qu'on est au sommet du pouvoir et qu'on a un sentiment d'être assiégé, persécuté ou attaqué de toutes parts. Le stratège est celui qui rassure, c'est celui qui conseille, qui rassure. Donc évidemment, ça donne une emprise psychologique importante sur la personne.
Et il avait réussi notamment avec la personnalité de Sarkozy.
Il avait réussi parce que c'est quelqu'un d'affectif, Nicolas Sarkozy, qui est très sensible. Et d'autant plus à la fin qu'en 2011, quand les gens commençaient à le lâcher, quand on disait qu'il n'allait pas être réélu, lui et Patrick Buisson étaient toujours là.
Et d'ailleurs, c'est sa ligne, la ligne Buisson qui va gagner.
Et c'est la ligne Buisson qui s'est imposée en 2012.
Et ce que vous dites, au fond, c'est que Buisson a gagné. C'est que, au sens gramscien du terme, c'est-à-dire la bataille idéologique, il a installé les thèmes de l'ordre, de la peur de l'autre, du repli sur soi, du nationalisme.
Et le clivage entre
partout.
Le peuple et le système, c'était le clivage qu'il a instauré en 2012. Redonner la parole au peuple, le référendum, on n'entend que ça aujourd'hui. Donc.
À 7 ans, il vous emmène rencontrer à la Trinité-sur-Mer un homme dont il vous dit c'est un homme très important. Cet homme va vous prendre sur les genoux, va vous chanter des chansons. Cet homme, c'est
Jean-Marie Le Pen.
Comment c'est
en 83.
Comment c'est de grandir à 7 ans à la Trinité-sur-Mer avec sur les genoux de Jean-Marie Le Pen?
Ah, j'ai pas grandi à Trinité-sur-Mer.
Oui, non, mais je plaisante. Mais
on s'en rend pas compte. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment le seul univers dans lequel il me faisait évoluer. Donc c'était normal. C'était juste quelqu'un de connu sur lequel, avec lequel je jouais.
Le livre commence par la scène de vos deux grands-mères qui aident votre mère à fuir son mari qui est devenu son bourreau, un homme colérique, tyrannique, qui la trompe et la violente, verbalement, physiquement. Ce sont les premières images que vous avez de votre père, ce qu'il a fait à votre mère.
Oui, c'est les images, c'est les premiers souvenirs d'enfance, c'est le conflit entre mon père et ma mère, enfin le conflit, entre ma mère qui subit et mon père qui la retient, et les images de fuite un été en 83.
Vous avez fui avec votre mère?
J'ai fui ma mère, c'est même moi qui l'ai convaincue de partir, d'un mot. Mais le problème, c'est que lorsqu'on fuit, il revient toujours. Il vous rattrape, il ne vous laisse pas partir.
Ouais.
C'est pour ça aussi que j'ai mis des années à accepter qu'il y ait une rupture en fait, entre nous. C'est qu'il ne peut pas y avoir de terrain d'entente, le plus petit soit-il. C'est forcément une rupture brutale et définitive. C'est le problème avec les gens qui placent tout sur le terrain de l'affrontement et du rapport de force, c'est que la fin est forcément brutale.
Oui, et vous avez décidé de rompre, c'était il y a quelques années, de ne plus jamais voir votre père.
Oui.
Mais comment vous expliquez, alors que vous aidez votre mère à fuir les coups et à fuir la violence verbale, que vous vivez dans cette violence sourde, qu'il va tout contrôler, ce que vous faites, ce que vous dites, votre esprit, il va vous confisquer votre passeport plus tard, et bien pourtant il va obtenir avec votre assentiment votre garde exclusive. Vous avez dit au juge, je veux vivre avec mon père.
Exactement.
Vous étiez sous emprise.
J'étais sous emprise et puis j'avais 12 ans. Donc...
Oui, mais tout de même.
Tout de même, oui, mais c'est compliqué à 12 ans, effectivement, quand on doit choisir entre ses deux parents et que quelqu'un vous pénètre votre esprit et cherche à évincer la mère du tableau. C'est ce qu'il a fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai très peu vu ma mère, en fait.
Aujourd'hui, vous la revoyez davantage?
Aujourd'hui, je vois plus qu'elle.
Vous êtes allé plus loin encore l'emprise, parce que vous avez travaillé avec lui. Vous avez choisi de travailler à la chaîne Histoire,
j'ai choisi,
groupe TF1.
Ouais.
Vous dites que vous avez été...
En fait, j'ai pas tout à fait choisi.
Ouais. Alors quoi? Parce
au départ, je devais pas travailler avec lui. Oui. J'ai su après. Et quand je l'ai appris, il m'a dit que ça devait être provisoire. Ça devait durer qu'un an et demi. Et puis ça n'a pas duré un an et demi. Et c'est là que la rupture a commencé.
Mais vous auriez pu travailler ailleurs. Vous auriez
exactement,
pu fuir l'emprise. Vous étiez majeur et vacciné.
Alors, par facilité, j'ai accepté de travailler avec lui parce que le poste m'intéressait. Et j'ai regretté amèrement. Mais même si je n'avais pas accepté de travailler avec lui, ça aurait mal fini. Ça aurait été juste une question de circonstances.
Le scandale va éclater quand on apprendra en 2014 que Patrick Buisson enregistrait à son insu Nicolas Sarkozy et l'ensemble de la Sarkozy. Vous étiez au courant de ces enregistrements. Est-ce que vous êtes à l'origine de la fuite?
Non.
Oui, vous continuez à dire ça.
Oui, je continue, mais tout ce que j'ai fait en mon nom, je l'ai fait frontalement et publiquement.
Ce qui est intéressant, c'est que vous-même, plus tard, vous avez enregistré votre père. C'est une maladie familiale, en fait, les écoutes.
Non, c'est pas le même usage. Lui, c'était pour faire du chantage. Moi, c'était pour me défendre. Ça a commencé le jour où il m'a dit qu'il avait demandé au directeur de la police d'enquêter sur le restaurant de ma femme. Et il avait dit que l'enquête avait révélé du blanchiment d'argent en provenance de Madagascar.
Oui, parce que votre femme est d'origine malgache.
Voilà.
Il l'appelle accessoirement la métisse.
Donc, j'ai écrit au directeur de la police nationale pour savoir ce qu'il en était. Et qu'à défaut de réponse, j'allais saisir le procureur de la République. Et le directeur de la police m'a dit non, il n'y avait pas d'enquête. C'était juste un coup de pression de Patrick Buisson.
Il a menti.
À partir de ce moment-là, j'ai enregistré pour me protéger.
Vous écrivez, cet homme ne doute pas, ne s'interroge pas, ne change pas, ne progresse pas, ne s'améliore pas. Lui avez-vous pourtant pardonné avec l'écriture de ce livre?
J'ai compris, c'est déjà énorme.
Pas de pardon?
Un pardon à distance, du moment qu'on est séparés.
Moralement, humainement, comment on sort de l'écriture d'un tel livre? Est-ce que vous êtes délivré ou est-ce que vous êtes cassé?
C'est un deuil que je devais faire et je pense avoir fait.
Est-ce que vous craignez des poursuites en justice? Est-ce que vous craignez que votre père fasse interdire?
Il peut y avoir des poursuites en justice, mais je ne les crains pas.
Vous ne les craignez pas? Vous l'attendez d'une certaine manière?
Non, je ne l'attends pas, mais je pense que j'ai fait le plus dur.
Voilà, un portrait ahurissant d'un homme et une page d'histoire passionnante, l'histoire de l'extrême droite, le secret le mieux gardé de l'extrême droite, l'ennemi de Georges Buisson, c'est chez Grasset. En plus, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien écrit. On sent que vous aimez la littérature.
Oui.
Merci Georges Buisson, votre livre est passionnant.
Merci.